L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes à Paris, au cœur de la capitale du pays des Lumières. Le palais du Louvre n'est qu'à quelques rues, la Seine aussi. Pierre Vidal-Naquet est un historien parmi les plus célèbres qui étudie le monde antique. Le vieillissant chercheur, derrière une monture de lunettes noires et épaisses, marche d'un pas pressé. Une mallette en cuir marron dans la main droite, il se présente aujourd'hui à l'accès réservé aux scientifiques de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Inaugurée en 1995, les deux tours du savoir sont encadrées par un jardin luxuriant de plus de 12 000 mètres carrés. Ce havre de paix, il l'espère, va lui permettre de percer l'un des mystères anciens les plus insolubles de l'histoire de l'humanité. Pierre Vidal-Naquet ramène les quelques cheveux qui lui restent vers l'arrière et salue la réceptionniste. Ses mains sont moites. Sa journée est bloquée depuis longtemps pour l'étude qu'il s'apprête à réaliser. Il s'installe sur une table éclairée d'une petite lampe incrustée dans le meuble. Un homme grand et fin, à l'air sévère, vient demander à l'historien quel document il est venu consulter. Sa réponse, limpide, fend le silence bien commun à ce genre d'endroit. Codex Parisinus Grecus 1807. Du Platon. Le Timée. Aujourd'hui, Pierre Vidal-Naquet compte bien repartir, la tête pleine de nouvelles pistes. Il est à la recherche d'une ville perdue, l'Atlantide. Nous sommes le 22 mai 2002, il est 10h, c'est l'heure H de mon histoire. La demande effectuée, il faut toujours un bon moment avant de voir arriver ce qu'on a commandé. Pierre Vidal-Naquet est déjà un vieux baroudeur, il connaît bien les délais et la marche à suivre. Son meilleur remède pour faire prendre patience ? Un bon gobelet de café, noir, sans sucre. Calmement, l'historien ouvre sa mallette en cuir et en sort un calepin de couleur bordeaux, accompagné d'un stylo plume. Il a toujours détesté écrire à la bille. L'encre est bien plus représentative de son métier, celui de raconter des histoires sorties des mâles du passé. Alors qu'il philosophe sur son activité de chercheur, activité qu'il affectionne depuis des dizaines d'années, voilà que réapparaît dans son champ de vision l'homme à la mine sévère. Il demande à l'historien de le suivre. Le carnet est vite remballé et le pas pressé. Pierre Vidal-Naquet suit comme son ombre l'employé de la BNF. C'est là qu'il entre dans le cœur même du savoir de la nation. Autour de lui, des milliers d'ouvrages, de tous les âges, bien souvent poussiéreux et chahutés par le temps, de splendides traces du passé qui contiennent, pour la plupart, les clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons, là, maintenant. Le chercheur est comme un gosse dans un magasin de jouets et, à force de lever les yeux sur les verrières et les immenses meubles de rangement, il manque de perdre son guide. Heureusement et sans sourire, l'homme l'attend un peu plus loin. La BNF, ou Bibliothèque Nationale de France. Ce nom résonne profondément dans le cœur et au fond des entrailles des intellectuels ou des chercheurs du monde entier. Cet endroit, il l'envisage comme le lieu de tous les possibles. Celui où, du moins trouver un trésor, est une chose envisageable. L'historien, comme tous ses collègues, sait pertinemment que le long de ses étagères et au fond de ses cartons, ce sont des morceaux de la grande histoire qui s'expriment. Il connaît les odeurs particulières que dégagent ces papiers plus ou moins abîmés par les affres du temps. Il aime déchiffrer les écritures aussi, plus ou moins pressées, plus ou moins stylisées. Ainsi, il appréhende la façon dont les anciens ont pu transmettre leur savoir. Il décrypte aussi les mystères les plus obscurs de l'humanité. Cette passion pour les archives, qui l'anime au fond, est bien courante chez les hommes et les femmes qui poussent les portes de la BNF dans l'espoir de voir leurs recherches avancer. Mais dans son cas, la donne est, disons, différente. Pierre Vidal-Naquet lève les yeux, regarde autour de lui. Une femme,
un peu plus loin, vêtu d'un col roulé beige et d'une jupe longue, est en train de dépouiller des documents qui lui semblent dater de l'époque moderne. Elle griffonne, sans doute depuis des heures, ses observations. L'historien, lui, l'espace d'un instant, la regarde et cherche à deviner le but des recherches de sa consœur. Ensuite, finalement satisfait avec l'idée d'en garder le mystère, il retourne à ses propres pensées. La méthode est différente dans son cas, puisqu'il enquête sur un des mystères qui animent le monde depuis la nuit des temps. Comment ne pas ressentir une appréhension mêlée à de l'excitation lorsque l'on espère toucher du doigt les réponses à des questions insolubles depuis des millénaires ? Au centre de la pièce, une grande table en bois découpée en différents postes de travail marque la zone réservée à ceux qui sont autorisés à fouiller les pages des plus précieuses enluminures et rares codex. Ah, voilà le sien d'ailleurs, porté avec attention par cet employé aux allures bizarres et qui porte des gants blancs trop grands pour ses mains menues. L'historien, lui, rechausse ses lunettes et enfile ses protections. Avec des livres aussi vieux, il n'a pas le moindre droit à l'erreur. Ce codex, trace du Timée, l'œuvre gigantesque de Platon, est le plus primitif héritage du talentueux romain. Ces mots, délicatement tracés, ont été au IXe siècle, il y a plus de 1200 ans. Cette visite n'a rien d'anodine pour le chercheur qui est en train de rédiger son nouvel ouvrage. Ce sera d'ailleurs probablement son dernier. C'est pourquoi il veut lui donner cette place dans sa bibliographie déjà reconnue et particulièrement étoffée. Gamin dans les troublées années 1930, l'homme aujourd'hui vieillissant est tombé amoureux des civilisations antiques grâce à une unique chose, l'Atlantide. Et le seul qui nous ait laissé des petits cailloux pour comprendre ce mystère, à la manière du petit Poucet, c'est Platon dans cet ouvrage presque vieux comme le monde. L'émotion est vive lorsque l'historien soulève cette couverture vieillie par les siècles. Il plonge dans une toute autre dimension, un tout autre âge que le sien. Chaque petite trace sur le papier jauni le ramène en arrière. Chaque mot finement tracé le guide vers ce qu'il recherche. Des indices pour mettre la main sur le trésor le plus recherché par l'humanité depuis des millénaires. L'Atlantide, pour lui, a un parfum d'enfance. Il dévorait en lecture toutes les théories sur la ville engloutie par Zeus, en dégustant les tartes aux pommes de sa grand-mère. L'affaire est donc particulièrement personnelle pour Pierre Vidal-Naquet, qui ne cesse, comme chaque antiquisant qui se respecte, d'apporter sa pierre à l'édifice de ce magistral mythe, véhiculé par l'un des plus grands philosophes du monde. Autant que les indices que Platon laisse dans son œuvre ne sont pas bien nombreux. Bien au contraire. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré la plupart des chasseurs de trésors. Le coffre, à peine ouvert, laisse transparaître la lumière des richesses qui s'y trouvent. À l'évocation de la cité perdue, l'historien se prête à rêver. Il se revoit jeune étudiant, planter des punaises à différents endroits sur une map monde. Espagne, Amérique du Sud, Asie. Ouais. Tout le monde s'est mis à voir des Atlantides partout. Alors trouver la vraie, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, si toutefois elle existait. C'est ce qui fait tout le charme de cette énigme aussi vieille que les rhumatismes de Pierre. Personne ne sait vraiment si, au fond, Platon s'est servi d'une légende sortie de son brillant esprit pour flatter son égo et celui des Athéniens. Ou si, finalement, le philosophe ne se serait pas contenté de coucher sur papier des événements bien réels et transmis par la tradition orale. Le nœud est là, la clé aussi. Pierre Vidal-Naquet est du genre sûr de lui. Il a sa petite idée sur la question, mais se garde bien de la communiquer pour le moment. Il doit encore trouver des indices pour étayer sa théorie. Autour de lui, quelques personnes de l'institution passent. On semble surveiller. Le codex qu'il a entre les mains est un véritable bijou. Un héritage d'un monde disparu à lui tout seul. De quoi faire craindre le pire lorsqu'il quitte son précieux coffre. Mais le chercheur est de ceux qui savent que les vieux ouvrages sont les piliers d'une société. Aucun risque de vandalisme, ou pire, de vol, de sa part. Il est une figure du monde universitaire sur le sujet. Alors, ces gamins qui viennent vérifier qu'il prend soin du texte de Platon,
Ça le fait doucement rigoler. Pierre Vidal-Naquet avale une gorgée de son café, qui n'est déjà plus très chaud, mais peu importe. Le voilà arrivé aux parties intéressantes, celles où l'auteur, en quelques formules, voire en quelques pages, évoque la ville perdue. Le chercheur ouvre alors frénétiquement son petit carnet et prend des notes aussi vite qu'il le peut, comme si le temps lui était compté. Ces informations, pour le moment, il les connaît déjà. Il doit lire entre les lignes, déchiffrer les indices qui jalonnent le chapitre. Athènes, les Atlantes... Il n'y comprend rien. Ses méninges sont prêtes à exploser. Tout s'entrechoque et se soulève. Les connaissances accumulées pendant des décennies viennent se mettre en parallèle les unes avec les autres. Allez, allez, encore un petit effort. L'énigme est là, elle est là, sous ses yeux. C'est à lui de trouver la clé. Nouvelle gorgée de café, nouveau regard vers les verrières, vers les meubles. Le chercheur tapote sur la table, lit, relit de nouveau. Il faut trouver l'inspiration, allez. L'historien est en panne sèche. Cependant, l'ouvrage lui aura permis d'établir certains constats et va ainsi le pousser à rédiger une œuvre pour l'expliquer à tous ceux qui ont cherché ou qui cherchent ce trésor comme lui, parfois depuis des centaines d'années. L'historien a-t-il mis la main sur l'Atlantide en écrivant ce dernier livre? La réponse, vous l'aurez un peu plus tard. Mais en attendant, tout comme lui, partons en chasse. Tentons l'expérience. Dans les profondeurs les plus inconnues de nos mers et de nos océans. En un seul jour et une nuit funeste, l'île Atlantide s'enfonça sous la mer et disparut à tout jamais. Ces quelques mots de Platon, rédigés originellement en 360 avant notre ère, ont de quoi nous interroger. C'est là que commence notre histoire, aux frontières les plus anciennes de notre monde. La Grèce antique est alors au centre du globe. Athènes est déjà une magnifique et ancestrale cité des plus impressionnantes. Nous sommes en 348 avant Jésus-Christ. Platon est un érudit respecté. Voilà déjà quelques années qu'il a rédigé l'un de ses célèbres livres, le Timée, en quelques lignes. Il a alors suscité maintes interrogations sur une cité aussi ancienne que la leur. Ses contemporains se sont questionnés sur sa sénilité. Le vieil homme, aujourd'hui, se trouve sur l'Acropole. Il est tout près du temple de Zeus, assis sur un banc. Le soleil est considérablement haut dans le ciel. Il est sans doute déjà plus de 14 heures. Nous sommes au début de l'été. Platon sait qu'il est déjà en train, doucement, de s'éteindre. Son héritage est immense, mais il lui reste un travail à mener, et non des moindres. Son œuvre sur l'Atlantide n'est pas terminée. Des moqueries, il en a subi presque chaque jour, depuis qu'il a affirmé l'existence de cette cité perdue, victime à la fois de son arrogance et de la colère de Zeus. Le vieux philosophe, en s'appuyant sur une canne presque aussi grande que lui, se lève et se dirige vers l'entrée du temple. Autour de lui, de nombreux visiteurs, comme chaque jour que l'Olympe fait, se dirigent à l'intérieur. 6 colonnes de façade, 13 de côté. Une hauteur remarquable pour un édifice hors norme, immaculé, en pierre et composé de splendides sculptures représentant l'Olympe et ses habitants légendaires. Platon, pendant un moment, observe cet ensemble splendide. Il fait le tour de l'édifice. Il observe les finitions récemment ajoutées par les tailleurs de pierre qui, génération après génération, se forment au contact de cette ancestrale trace du passé. Elle est si belle qu'elle semble avoir été descendue de Zeus lui-même. Parlons-en d'ailleurs, du dieu des dieux. À l'intérieur du temple, déjà superbe, se cache l'une des 7 merveilles du monde. Une statue en or ciselée et réalisée par Phidias lui-même, le meilleur de tous les orfèvres. 12 mètres de haut, et le regard sévère du souverain des divinités assis sur son trône. Chaque fois qu'il y entre, Platon est la victime de cette splendeur dont jamais il ne se lasse. Zeus, ici représenté parmi les hommes, semble de ses yeux réclamer des offrandes et des sacrifices en son honneur. Ou pourquoi pas? Il irait jusqu'à se lever pour mettre à bas l'acropole d'un seul coup de pied. La main droite sur le bas de son dos souffrant, Platon s'incline devant l'immeuble d'or qui se tient devant lui. Phidias a su rendre les hommes humbles face à tant de grandeur. Le long des arcades intérieures, des petits bancs de pierre blanche ont été installés il y a peu. Platon, devenu routinier avec l'âge, ne se fait pas prier lorsque l'assise qu'il affectionne le plus se libère. Posant son bâton à ses côtés, comme pour éviter que des voisins non désirés ne viennent le rejoindre, il plonge son regard dans celui de Zeus. La légende, telle qu'on lui a transmise dans sa prime jeunesse, voudrait que le dieu des dieux, maître de l'orage et des éclairs, ait été celui qui, rouge de colère, aurait fait sombrer l'Atlantide. Le tout après une guerre délirante et meurtrière menée contre Athènes. La popularité de la cité de Grèce a alors décollé afin d'atteindre l'hégémonie qu'on lui a connue pendant de très nombreux siècles. Platon, longtemps, n'avait pas écouté cette histoire qui, selon lui, n'avait ni queue ni tête. Après tout, la mythologie regorge d'histoires qui ne sont finalement là que pour expliquer le monde tel qu'il existe. Le philosophe le sait. Autour de lui, des enfants chahutent, bientôt rattrapés par leurs parents, qui les menacent en pointant la statue d'or du doigt. Impressionnés, les marmots baissent rapidement la tête de peur d'être foudroyés sur place. C'est le pouvoir des croyances. Longtemps immobile dans la torpeur de cet après-midi qui ne cesse de s'étioler, Platon contemple, la main dans sa barbe fleurie, les détails qui entourent cette merveille parmi les merveilles. Il ne cesse de penser aux Atlantes, et à leur île disparue. Que penser de ces vieilles histoires? Est-il possible d'imaginer que cela soit réel? Le doute dans son esprit a longtemps existé, mais aujourd'hui, il sait que tout ceci avait un parfum de vérité. Du moins, il le pensait réellement. Un de ses vieux amis marchands qui écumait le monde comme Poséidon pouvait traverser les mers venait de lui rapporter une grande nouvelle. On avait retrouvé quelques pierres gravées provenant du sol égyptien et qui, dans une langue inconnue, accompagnée de dessins, semblait évoquer une île aux technologies remarquables. Cette île était protégée par une bête immonde et hideuse qui vivait dans les profondeurs, le Léviathan. À l'écoute de cette découverte absolument remarquable, Platon s'était saisi. L'un des dessins montrait ce qui ressemble à une vague gigantesque qui engloutit la totalité des hommes et des installations de ce peuple. Zeus, l'Atlantide. Le philosophe jamais n'a raconté la suite de l'histoire qu'il avait saupoudrée au lecteur au sein du Timée. Elle lui a été fournie par les moines d'Égypte, pays dans lequel il avait passé plus d'une décennie dans sa jeunesse. Mais la mort s'annonce et ses nouvelles traces mises à jour par son ami le subjuguent. Il doit absolument poursuivre sa quête de vérité. Il en va de la possible découverte un jour de cet endroit aussi magique que stupéfiant. Peut-être se cache-t-il encore là, protégé par une créature que même les dieux n'ont pu tuer. Qui sait ? Platon finalement se lève. Aussitôt, une femme qu'il observait depuis un autre banc depuis un moment se précipite sur lui. Sans un regard pour elle, le vieil homme ressort en marche arrière, toujours fixé la statue de Zeus. Sait-on jamais ? Il s'en retourne chez lui. Le philosophe doit écrire. Le plus vite possible. Platon a déjà trouvé le titre de son avant-dernier ouvrage, Critias, l'histoire de l'Atlantide. La suite, il l'a déjà programmée. Il lui faudra parler de la guerre entre Athènes et les Atlantes, et donc évoquer la disparition de cet endroit aussi mystérieux que l'Olympe. D'un pas plus léger que jamais, le philosophe rentre chez lui. Il sifflote. Son dernier combat qui s'annonce le motive. Il est trop vieux, lui, pour trouver le coffre au trésor et percer ce mystère. Tout ce qu'il peut faire, c'est disséminer les clés qui vont permettre aux jeunes générations d'en ouvrir les serrures. L'œil pétillant, plein de malice, Platon va écrire toute la nuit. Il n'aura de cesse de transmettre ses connaissances sur le sujet. Le tout sous forme d'une énigme qu'encore aujourd'hui, les spécialistes peinent à transpercer. Le Critias de Platon est la suite chronologique, logique du Timée qui déjà amorçait l'idée d'un mythe concernant un peuple mystérieux, celui des Atlantes. Comme souvent avec l'auteur antique, l'intrigue se déroule sur base d'un dialogue entre plusieurs personnages de son invention. Ils sont quatre ici, dont le fameux Socrate. Loin de moi l'idée de vous faire un résumé détaillé de ce livre qui ne porte pas seulement sur la question de l'Atlantide qui nous intéresse aujourd'hui. Mais pour autant, comme souvent dans nos histoires, le destin s'est montré particulièrement joueur. La faucheuse est venue prendre Platon par la main pour l'emmener aux Champs-Élysées, le paradis des Grecs, avant qu'il ait pu terminer cet ouvrage. Aucun moyen donc de pouvoir compter sur l'ensemble des clés qu'il a cherché à disperser pour que nous puissions en percer le mystère. Pire, la suite, envisagée pour évoquer la guerre qui provoqua la fin de cette civilisation, non plus n'a pu être rédigée. Il nous laisse donc orphelins de la solution à un mystère insoluble. Parcourons néanmoins, pour tenter nous aussi de résoudre cette affaire, les différents éléments intéressants à partir desquels les dialogues ont été rédigés. Platon évoque par exemple le fait que les chercheurs primitifs, dont fait partie le célèbre Homère, ont fait de nombreuses recherches et que ces premières découvertes ont permis la naissance de mythologies et de chasse au trésor dont la quête de l'Atlantide est au centre. Cette digression lui permet d'introduire au lecteur la description de ce royaume considéré comme fictif. Et pour la première fois, le philosophe annonce sa source. La naissance du mythe serait venue tout droit du peuple d'Égypte, bien avant la construction des pyramides. Au cœur d'un état en constante mutation, les pharaons auraient reçu à de nombreuses reprises des émissaires, diplomates et marchands venus de cette île aux confins du monde et aux richesses plus impressionnantes les unes que les autres. Platon commente le fonctionnement matériel de l'Atlantide en employant ces quelques mots. Les rois avaient des richesses en telle abondance que jamais sans doute avant eux, nulle maison royale n'en posséda de semblable et que nul n'en possédera aisément de telle à l'avenir. L'île leur fournissait tous les métaux durs ou malléables que l'on peut extraire des mines. En premier lieu, celui dont nous ne connaissons plus que le nom, l'oricalque. C'était le plus précieux après l'or, les métaux qui existaient en ce temps-là. L'île fournissait avec prodigalité tout ce que la forêt peut donner de matériaux propres au travail des charpentiers. De même, elle nourrissait en suffisance tous les animaux domestiques ou sauvages. Elle donnait encore et les fruits cultivés et les graines qui ont été faites pour nous nourrir et dont nous tirons les farines. Ainsi, recueillant sur leur sol toutes ces richesses, les habitants de l'Atlantide construisirent les temples, les palais des rois, les ports. De nombreuses trames concernent la vie quotidienne de ce monde aux antipodes de la Grèce, mais qui finit par mourir par péché d'orgueil, comme l'explique Platon. L'auteur ne pourra pas aller plus loin dans sa tâche. Les derniers mots qu'il écrit sont ceux-ci. Pendant de nombreuses générations, les rois écoutèrent les lois et demeuraient rattachés aux principes divins auxquels ils étaient apparentés. Mais quand l'élément divin vint à diminuer en eux par l'effet du croisement avec de nombreux mortels, ils tombèrent dans l'indécence. Dit plus simplement, devant l'opulence, les Atlantes se sont détournés des dieux et en ont payé le prix fort. Mais Platon meurt et ne peut continuer d'exposer la vie, la disparition et surtout la localisation de ce peuple aux richesses incommensurables. Ces quelques miettes de savoir, cependant, auront suffi à provoquer les fantasmes les plus fous de génération en génération, tant parmi les chercheurs qu'au sein de la communauté des chercheurs de trésors. Pirates, corsaires, forbans, aventuriers à la Indiana Jones, tous vont se précipiter dans les brèches ouvertes par l'auteur grec pour tenter de percer le mystère et de se lancer dans l'une des quêtes les plus célèbres au monde. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ils seront nombreux pourtant.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se penche sur le destin de l'Atlantide, une île mystérieuse sujette à tous les fantasmes et toutes les interprétations. Cette histoire, enrobée et mise en forme par le philosophe Platon lui-même, est la quintessence de la chasse au trésor. La cité perdue serait le royaume de toutes les richesses, de tous les superlatifs. Intelligence extraordinaire, matériaux rares et précieux. Tous les plus grands chercheurs après Platon se pencheront sur cette recherche de l'impossible. Avec réussite ? Rien n'est moins sûr. Nous sommes en novembre 2004, au large de l'île de Chypre. Robert Sarmast est un chercheur chevronné, scientifique respecté et chercheur de trésors. Enfin plutôt, d'un trésor, l'Atlantide. De nombreuses recherches préalables lui ont permis de localiser l'île perdue. Le voilà avec une flotte de scientifiques au large de la magnifique Chypre. Après des jours d'incertitude, il tient enfin entre ses mains la preuve qu'il recherchait. Le petit sous-marin qui l'accompagne revient de plongée avec de bonnes nouvelles. Son pilote, un trapu moustachu qui ressemble plus à un boucher charcutier du XIXe siècle qu'à un as du volant, comme quoi l'habit ne fait pas le moine, l'a fait appeler en urgence. Il a les mains aussi tremblantes que des feuilles d'automne. Il a trouvé un plateau incrusté d'éléments qui semblent provenir d'une civilisation très ancienne. Il en est persuadé. En effet, le pilote ne s'est pas trompé. Par plus d'1,5 km de profondeur se dressent deux murs, impressionnants, de 2 km de long chacun. Tout semble prouver qu'il pourrait s'agir de l'île perdue. Enfin, Sarmast se décide à lancer d'incroyables investigations à la suite de cette première découverte. Et cela va payer une seconde fois. Des objets de valeur, une stèle gigantesque avec des inscriptions sont remontées à la surface. Pour lui, ces témoignages sont suffisants. Il vient de trouver l'Atlantide. Perché sur son bateau, prêt à rentrer au bercail, il plonge une dernière fois ses yeux dans les vagues recouvrant son incroyable trésor. Ses murs sont situés pile entre deux plaques tectoniques. La cité n'avait aucune chance d'y résister et a fini par sombrer corps et biens. Les larmes aux yeux, le chercheur se promet de revenir, d'investiguer encore, de trouver de nouveau d'autres objets et d'autres preuves. Ses équipes attendent son ordre pour partir et reprendre le chemin de la mer, mais lui tarde à quitter cet endroit. La nostalgie de celui qui doit laisser derrière lui quelque chose qu'il a cherché durant des années l'assaille. Ses sentiments se mêlent. Si en son fort intérieur il est persuadé d'avoir trouvé la cité des Atlantes, une petite voix ne peut s'empêcher de lui dire que ça ne colle pas tout à fait. La localisation, le manque de richesses malgré les quelques trouvailles. Et elle a raison, cette petite voix. Sarmast va se faire pourfendre par la communauté scientifique à son retour. C'est pas nouveau. Tous les chercheurs ayant fait des recherches avant lui se sont heurtés à leurs confrères. C'est ainsi depuis l'époque moderne. Mais cette fois, la pilule est difficile à avaler. Sarmast était persuadé de la fiabilité de son coup. Ce qu'on peut appeler un coup d'épée dans l'eau. En effet, la communauté scientifique se refuse à croire à cette théorie de l'île perdue au large de Chypre. Et ce, pour plusieurs raisons. Il faut déjà rendre à César ce qui appartient à César. S'il n'a pas trouvé l'Atlantide, Sarmast, de manière totalement certaine, a bien trouvé quelque chose. Une autre cité antique enfuie dans les profondeurs des eaux, peut-être. Mais ce n'était pas celle des Atlantes. Du moins, c'est peu probable. En réalité, les investigations menées à la suite de tout ce barouf, en 2004, apportent tout un tas de nuances à différents échelons. Premièrement, hormis la stèle, aucun artefact d'origine humaine n'a été retrouvé. Premier couac. Deuxièmement, les relevés sonars utilisés comme preuve par Sarmast sont critiqués par ses collègues qui s'appuient sur l'existence d'un volcan sous-marin particulièrement ancien, plus de 100 000 ans. Face à ces critiques, l'explorateur décide de repartir en chasse 2 ans plus tard. 2006. Nouvelle recherche et cette fois, désillusion. Ce qu'il a mentionné comme des murs sont en réalité des barrières qui se seraient formées naturellement. Elles n'ont pas pu être fabriquées de la main de l'homme. De quoi faire tomber la théorie à l'eau ? Non, pas pour lui. Le chercheur reste persuadé d'avoir mis la main sur l'Atlantide. Pour autant, tout semble aujourd'hui prouver le contraire. Tout comme celle de Sarmast, de nombreuses autres pistes ont été évoquées afin de localiser la précieuse cité perdue. Elle a été imaginée certainement dans toutes les mers et océans du monde. Certains, récemment, ont même évoqué la possibilité qu'elle ait été située au niveau de la péninsule du Sinaï. D'autres en mer Noire, dans celle du Marmara, au large de la Tunisie ou de la Sardaigne. Enfin, la Phénicie, la mer d'Irlande et même celle d'Islande ont également été évoquées. Alors vous l'avez compris, rien n'est clair, rien n'est certain. Les hypothèses sont plus que nombreuses et les recherches menées, bien que souvent coûteuses, sont riches d'espoir. Toutefois, deux pistes, plus que les autres, pour celles et ceux qui croient à l'existence de la cité, tiennent la corde. Premièrement, celle qui mène au large de l'Espagne, et plus particulièrement le long de Gibraltar. En effet, cette zone a toujours été sujette à de nombreuses perturbations terrestres. En 1755, Lisbonne, victime d'un tremblement de terre, a vu Gibraltar être submergé par une vague de plus de 11 mètres de haut, rien que ça. Alors, est-ce envisageable que les écrits de Platon nous amènent vers la péninsule Ibère? Et pourquoi pas? Le philosophe évoque les colonnes d'Hercule qui encadraient la cité perdue. Comment ne pas penser aux détroits et à ces rôles naturels? Oui, mais personne n'a jamais rien trouvé pour autant. Une autre piste, enfin, est sur la table depuis quelques années et tient la corde chez certains explorateurs et chercheurs intéressés par le sujet. Elle est défendue par le Britannique Paul Brunon. Il explique dans son ouvrage « A Search in Secret Egypt » sa théorie. Les hommes qui avaient habité l'Égypte préhistorique, qui avaient sculpté le sphinx et fondé la plus ancienne civilisation du monde, étaient des hommes qui avaient fait leur exode de l'Atlantide pour s'installer sur cette bande de terre qui bordait le Nil. Et ils étaient partis avant que leur continent malheureux ne coule au fond de l'océan Atlantique, une catastrophe qui avait vidé le Sahara et l'avait transformé en désert. Les coquillages qui jonchent aujourd'hui par endroits la surface du Sahara, ainsi que les poissons fossiles que l'on trouve dans ces sables, prouve qu'il était autrefois recouvert par les eaux d'un vaste océan. C'était une pensée formidable et étonnante que le sphinx fournisse un lien solide, visible et durable entre les gens d'aujourd'hui et les gens d'un monde perdu, les Atlantes inconnus. Ce grand symbole a perdu sa signification pour le monde moderne, pour qui il n'est plus qu'un objet de curiosité locale. Qu'est-ce que cela signifiait pour les Atlantes? Et les colonnes d'Hercule alors? Elles auraient été situées entre les bassins orientaux et occidentaux de la Méditerranée. Alors l'Atlantide, au fond du bassin entre la France et le nord de l'Afrique? Certains disent même que la Sardaigne pourrait correspondre aux dimensions avancées par Platon. Mais la Sardaigne, comme vous le savez, n'est pas au fond des eaux. Certains historiens prennent le parti de cette théorie défendue par de nombreuses personnes à la recherche de l'île. D'autres s'opposent totalement à ce genre de théorie qualifiée de « romanesque », notamment quant au déplacement de populations vers l'Égypte et sur la transformation du Sahara en désert. Le premier d'entre eux, Pierre Vidal-Naquet. Vous vous souvenez? Le chercheur persuadé d'avoir trouvé la solution en visite à la BNF. Son livre s'apprête à apporter une toute nouvelle vision de l'histoire. Et les chercheurs de trésors risquent bien d'être déçus.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se consacre à la chasse au trésor la plus connue de toute l'histoire, et ce, depuis la Grèce antique. Platon, philosophe et auteur parmi les plus célèbres, lance à la mer, à la fin de sa vie, une bouteille avec quelques indices sur le sujet. L'Atlantide est une île réputée pour être la plus riche qui ait pu exister. Prétendument disparue sous les flots lors d'un déluge cataclysmique. Commandée par les dieux, jaloux des Atlantes, la civilisation n'a laissé aucune trace. C'est du moins ce que l'on croit. Mais cette île a-t-elle jamais existé? Ou n'est-elle qu'une allégorie qui, au fond, n'est là que pour illustrer des morales philosophiques? Patience, patience. Peut-être allons-nous pouvoir trouver des réponses. Nous sommes en 2006. L'historien Pierre Vidal-Naquet vient de mourir. En effet, son ouvrage sur l'Atlantide aura été sa dernière contribution à la science historique. Cette étude, sorti depuis un peu plus d'un an, fait déjà date. Dans les facs, dans les auditoriums et les salles d'enseignants du supérieur d'Antiquisant, tout le monde en parle. C'est une véritable bombe. Au fond, ce texte n'apporte rien qu'on ne connaisse déjà, mais se contente de remettre l'église au milieu du village. Non, l'historien ne place pas l'île sur la carte du globe. Ni l'Espagne, ni l'Italie, ni le Grand Nord, ni même le Sahara. Non, 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 rien de tout ça. Il la place ailleurs, dans notre imagination. Pour lui, l'Atlantide n'existe pas, tout simplement. Fin de l'histoire. Et là, vous allez me dire, mais alors quoi, c'est tout? Vous êtes déçu. Je comprends. Mais rassurez-vous, tout cela s'appuie sur de solides arguments. Premièrement, les sources primaires à l'origine du monde perdu sont uniquement en relation avec la figure de Platon. Personne d'autre n'en parle, du moins aucun auteur qui nous est parvenu. Cela ne ferme donc pas totalement la porte, vous avez raison si vous le pensez, mais tout de même, c'est assez interpellant. D'autant plus qu'il met en parallèle l'Atlantide avec une ville d'Athènes fictionnelle qui se sort grandie d'un conflit contre cette civilisation avancée, engloutie par Zeus à cause de son orgueil et de son détournement de la religion. Comme une mise en garde aux Athéniens de la nécessité de rester en phase avec leur panthéon. Vous avez dit manipulation ? Oui, peut-être, oui. Partons du principe que Platon a bel et bien inventé l'existence de l'Atlantide de toutes pièces, le tout pour avertir les siens d'une éventuelle athéisation de la société. Pourquoi alors le mythe a-t-il pris une telle ampleur? Eh bien grâce, ou à cause, c'est selon, de la Renaissance, période des grandes découvertes et du renouveau des sociétés sortant du Moyen-Âge. L'apparition sur la carte du continent américain après le voyage de Colomb en 1492 change la donne. Tout de suite, certains érudits établissent un lien entre le continent perdu et les Amériques. L'effet de mode ne va jamais retomber. D'une chasse au trésor somme toute classique, bien plus tard, au XIXe siècle, l'Atlantide et son histoire prennent un virage totalement politique. Surprenant, hein ? De l'Italie à l'Espagne, en passant par la Suède, tous les mouvements nationalistes d'Europe s'emparent de l'île engloutie pour mettre en avant leur culture propre face aux cultures étrangères qui, selon eux, colonisent leurs terres. La plus en verve sur ce thème durant le XXe siècle, c'est bien entendu, je ne vais pas vous surprendre, l'Allemagne d'un certain Adolf Hitler qui s'empare avec vigueur de l'histoire de l'Atlantide pour mettre en exergue la nécessité de naissance de la race aryenne. Une volonté de retrouver des traces du passé, on passe donc dans une sphère politique beaucoup plus nauséabonde. Les propos de Platon aux interprétations successives et toutes les passions autour de la prétendue localisation de l'île perdue ont donc ouvert la porte à de nombreuses théories. L'existence réelle du lieu a une totale imagination. Plus incroyable est très certainement que cela dure depuis plus de 2000 ans et que personne, là encore, n'arrive à se mettre d'accord sur la base de certitude. Au fond, et c'est la théorie de Pierre Vidal-Naquet notamment, l'histoire de l'Atlantide nous interroge beaucoup plus profondément que la seule existence, supposée ou non, de ce monde prétendument sous-marin. C'est finalement la place du mythe dans l'histoire qui doit nous questionner au travers de cet exemple saisissant. Comment une légende peut-être inventée par l'un de nos plus grands penseurs pour mettre en lumière d'autres phénomènes, a-t-elle pu faire naître une telle passion dans les esprits de tous les âges? Je vous laisse le soin de tirer vos propres conclusions, mais cela doit nous inviter à réfléchir, assurément. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation de Paul Brunon, philosophe britannique et aventurier à ses heures perdues, dont nous avons parlé tout à l'heure. Cet homme, persuadé que les Égyptiens sont les descendants des Atlantes en fuite qui se sont installés le long du Nil, rédige ces quelques mots dans son ouvrage « A Search in Secret Egypt ». Nous devons chercher un indice de réponse dans les quelques vestiges de culture survivant encore des peuples dont les propres histoires revendiquaient l'origine atlante. Nous devons sonder derrière les rituels de races comme les Incas et les Mayas montant au culte plus pur de leurs lointains ancêtres et nous découvrirons que l'objet le plus élevé de leur culte était la lumière, représentée par le soleil. C'est pourquoi ils ont construit des temples pyramidaux du soleil dans toute l'Amérique ancienne. Ces temples étaient soit des variantes, soit des copies légèrement déformées de temples similaires qui avaient existé en Atlantide. Après que Platon soit allé en Égypte, où il a vécu et étudié pendant 13 ans, les prêtres enseignants lui ont donné des informations tirées de leurs archives secrètes bien conservées. Entre autres choses, ils lui ont dit qu'une grande pyramide à sommet plat s'était dressée au centre de l'Atlantide et que sur ce sommet avait été construit le temple principal du continent, un temple du soleil. Alors, convaincu ? D'après vous, l'Atlantide repose-t-elle au fond des mers ou n'est-elle qu'un mirage de l'histoire ? Le mystère, vous en conviendrez, reste entier. Voilà donc pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.